André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous entamons la 7e et avant-dernière émission de notre série Molière, saison 2, en poursuivant l'interview de Molière, revenu de l'au-delà, en la personne de Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour André.
Et des extraits des pièces du maître avec nos comédiennes et comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Jackie Pujol. Bonjour Jackie.
Bonjour à tous.
Michel Lagouin. Bonjour Michel.
Bonjour tout le monde.
Et Pierre Rougeau. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors reprenons tout de suite l'entretien avec Jean-Baptiste Poquelin où nous l'avions laissé lors de notre dernière émission. Jean-Baptiste Poquelin, en 1665, après le scandale du Tartuffe, vous entrez dans une période faste avec de grands succès, dont Jean, le misanthrope, le médecin malgré lui, etc. etc.
Oui, bonjour André. Oui, effectivement, je continuais sur ma lancée en 1666, alors tout d'abord avec le misanthrope, créé le 4 juin, et le médecin malgré lui, créé le 6 août. Dans la première, j'ai assemblé une multitude de caractères mondains dont le public raffole. La morale de cette histoire est de ne point se plaindre des défauts des autres, être au contraire bienveillant et indulgent. Les prendre pour ce qu'ils sont, sans rien attendre, en acceptant leurs défauts, pour mieux s'en protéger. Mon personnage principal, Alceste, ne voit autour de lui que faux semblants, hypocrisie et futilité. Aigri, il s'accroche à sa morale avec une rigidité qui frôle parfois le ridicule. Le public s'amuse de voir les travers de mes personnages que tout le monde déteste, y compris chez soi-même. Alors je dénonçais les mœurs de la cour qui frôle le parodique. Je critiquais le masque de l'honnêteté et montrais tout l'artifice de cette culture de l'image. Le médecin, malgré lui, est plutôt une farce. Hein. Une femme battue par son mari cherche à se venger et fait croire à des tiers que, bien rossé, il savoure un médecin. Alors une femme battue déclenche une nouvelle rumeur. Je serai misogyne. Un scandale de plus, quoi.
Et à propos de scandale, une nouvelle version du Tartuffe ?
Oui. Alors André, nous créons avec Lully, Saint-Germain-en-Laye, le Sicilien ou l'amour peintre. Le 20 février, si mes souvenirs sont bons, 1667. Cette pièce est un opéra comique qui mêle chant, danse et comédie. Je dois dire que c'est la meilleure partition musicale de Jean-Baptiste. Enfin, Jean-Baptiste Lully. Hein. Pièce d'ailleurs qui n'a suscité aucun remous. Cette année-là fut très prolixe pour moi. Une seule représentation de l'imposteur et une nouvelle version du Tartuffe, aussitôt frappée d'interdiction. Louis XIV avait convaincu avec l'archevêque de Paris que cette pièce pourrait contrarier sa politique religieuse. Alors s'étant affirmé comme le roi des chrétiens, défendant l'orthodoxie catholique face à la secte des jansénistes, une comédie qui ridiculisait ses dévots. Je ne voulais que m'attaquer à l'hypocrisie en général, premier de tous les vices, et à sa forme, la plus pernicieuse, la fausse dévotion. J'adoptais une nouvelle attitude, l'auteur d'un théâtre destiné à corriger les vices des hommes. D'auteur d'un théâtre satirique, je devenais un auteur d'un théâtre moral. J'avais même changé le titre, « Les faux dévots » ou « L'imposteur ». Elle ne fut autorisée définitivement qu'en 1669. Cela a été mon plus gros succès à ce jour. Ah bon, voyez, moralité, le scandale paix. C'était pas fini. Hein. Le 16 janvier 1668, nous jouons aux Tuileries devant Louis XIV, amphitryon. Alors un parfum de scandale, encore une fois, entoure la pièce. Je l'avais adapté de l'amphitryon de Plot, Jupiter et Mercure apparaissent sous les traits de mes deux personnages principaux. Certains prétendent que sous les traits de Jupiter se cache en réalité Louis XIV et qu'ainsi je critiquais les amours du roi. Surtout de l'amour illicite qu'il entretenait avec Madame de Montespan. Suite à la deuxième interdiction de Tartuffe, loin de baisser les armes, j'ai poursuivi mon combat sous le voile du sujet mythologique. Dans le face-à-face de mes personnages d'amphitryon se dessinait en filigrane la théâtralisation qui m'opposait à mes détracteurs à propos de Tartuffe.
puis vers les grandes fêtes du roi Louis XIV.
Le 2 mai de cette année-là, effectivement, oui, le traité d'Aix-la-Chapelle met fin à la guerre de dévotion entre la France et l'Espagne. Louis XIV est de retour et je souhaite célébrer cela avec la cour en organisant une grande fête à Versailles, le grand divertissement royal. Pour l'honorer comme il se doit, je conçus une pièce comique et musicale avec Lully, Georges Dandin. Le 18 juillet, première devant le roi, et le 9 novembre, devant le public, sur la scène du Palais Royal. Cette pièce n'a pas rencontré son public, il a été très réticent. Nous l'avons jouée qu'une dizaine de fois, je pense qu'elle tombera dans l'oubli. Bah, il est vrai que Rousseau et Voltaire en particulier n'ont pas hésité à tremper leurs plumes dans le vitriol de vives critiques acerbes.
Ça ne vous a pas empêché de poursuivre votre critique de la société avec Tartuffe ?
Oui, effectivement, ouais, je n'avais pas fini avec les défauts humains. Ma comédie suivante me servira encore une fois à critiquer par l'ironie et l'exagération. Créée le 9 septembre, cette comédie m'offre une satire mordante de l'avarice et des excès de l'amour-propre. Mon personnage devient fou après la commotion éprouvée à la perte de sa cassette. Perte de son identité, dédoublement de sa personnalité, hallucination et personnification. Comique de situation et quiproquo sont la base de l'avare, comme d'ailleurs toujours dans mes pièces. On pourrait la résumer par cette morale « L'argent ne fait pas le bonheur ». La morale que j'ai voulu en tirer, c'est encourager à faire usage de nos biens si nous souhaitons les posséder pleinement.
Alors faisons une petite pause, merci Jean-Baptiste, une petite pause pour écouter quelques scènes des Femmes savantes. Les Femmes savantes, écrit en 1672, est une comédie de caractère qui critique la société du XVIIe siècle, notamment l'éducation des femmes et les mariages arrangés. L'œuvre retranscrit l'histoire de trois femmes bourgeoises, Philaminte, Bélise et Armande. Passionnées de science et de poésie, manipulées par un faux savant, Trissotin, dont les intentions ne sont qu'arrivistes et opportunistes. Ces femmes savantes tentent, tant bien que mal, de s'imposer aux autres membres de la famille, qui entretiennent de dévoiler la vraie nature de ce poète pédant. Voici, pour poser le cadre, l'acte 1, scène 1, puis acte 1, la scène 3 et 4. Acte 1, scène 1, Armande, Françoise, Henriette, Jackie.
Quoi ? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur ? Et de vous marier, vous osez faire fête ? Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête.
Oui, ma sœur.
Oh, ce oui, ce peut-il supporter ? Sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter ?
Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur ?
Oh, mon Dieu, fille !
Comment ?
Ah, fille, vous dis-je, ne concevez-vous point ce que, dès que l'on entend un tel mot à l'esprit, offre de dégoûtant ? De quelle étrange image on est passé par lui blessé ? Sur quelle sale vue il traîne la pensée ? Non, frissonnez-vous point. Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur ?
Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si je puis raisonner, qui me blesse la pensée et fasse frissonner.
De tels attachements au ciel sont pour vous plaire.
Et qu'est-ce qu'à mon âge, on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous. Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts ?
Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, levez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles désirs et traitant de mépris les sens et la matière à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux que, du nom de savante, on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravalent. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles.
Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois, nous fabrique un essaim. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants, les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements et de nos deux instincts suivant le mouvement. Habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit se tenant ici-bas, coûtera de lui-même les terrestres à pas. Ainsi, dans nos desseins, l'une et l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière.
Quand tu, sur une personne, on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle.
Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de beaux côtés. Eh bien, vous prends, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde.
Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée au moins n'est pas mise à clitendre.
Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas?
Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'un autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que clitendre est pour moi hautement soupiré.
Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines et vous tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour clitendre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre?
Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite que pour adorateur, on veut bien à sa suite.
Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections, il n'ait continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre, au refus de votre âme, ce qu'il est venu m'offrir, l'hommage de sa flamme.
Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté. Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur pour moi, toute flamme soit morte?
Il me le dit, ma sœur, et pour moi je le crois.
Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi, et croyez, quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien. Il se trompe lui-même.
C'est Clitendre, le prétendant d'Henriette, qui lui réclame la sincérité de ses intentions à son égard. Henriette lui réitère son amour et l'incite à demander sa main. Armande les laisse seuls. Voici la scène 3, avec Clitendre, Michel, Henriette, Jackie, puis la scène 4 avec la tante Bélise, Françoise.
Votre sincère aveu ne l'a pas peu surpris.
Elle mérite assez une telle franchise. et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame.
Le plus sûr est de gagner, ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir de tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme, qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne, et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Un esprit qui, flattant les visions du leur, vous put de leur estime attirer la chaleur.
Mon cœur n'a jamais pu, tant qu'il est né sincère, même dans votre cœur flatter leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots et clouer l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un Benet dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officieux papier fournir toute la halle.
Ces écrits, ces discours, tout m'en semble ennuyeux, et je me trouve assez votre goût à vos yeux. Mais comme sur ma mère, il a grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour, s'attache son cœur, il veut de tout le monde y gagner la faveur. Et pour n'avoir personne à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis, il s'efforce de plaire.
Oui, vous avez raison. Mais Monsieur Trissotin m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Je ne puis consentir, pour gagner ses suffrages, à me déshonorer en brisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru, et je le connaissais avant de l'avoir vu. Je vis dans le fatras des écrits qu'il nous donne ce qu'étale en tout lieu sa pédante personne, la constante hauteur de sa présomption, cette intrépidité de bonne opinion, cet indolent état de confiance extrême qui le rend en tout temps si content de soi-même, qui fait qu'à son mérite incessamment il rit, qu'il ne sait si bon gré de tout ce qu'il écrit et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée.
Oh, c'est d'avoir de bons yeux que de voir tout cela.
Jusque à sa figure encore la chose alla, et je vis par les vers qu'à la tête il nous jette, de quel air il fallait que fût fait le poète. Et j'en avais si bien deviné tous les traits, que rencontrant un homme un jour dans le palais, je gageai que c'était Trissotin en personne, et je vis qu'en effet la gageure était bonne.
Quel conte !
Non. Je dis la chose comme elle est. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez, pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme.
Ah, tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui, chez moi, passent pour un outrage.
Clitandre et Henriette veulent se marier, même si au départ, Clitandre courtisait Armande, la sœur. Ainsi donc, Clitandre et Henriette veulent le soutien de toute la famille. Chrysal, le père, et Ariste, l'oncle, sont d'accord pour le mariage. Mais ce n'est pas le cas des trois femmes savantes, Philaminte, la mère, Bélise et Armande. La mère veut qu'Henriette épouse plutôt Trissotin dans le but de garder science, philosophie et savant à la maison. Le père ne veut toujours pas vraiment s'opposer au désir de sa femme. Enfin, Et c'est Ariste qui déjoue le double jeu de Trissotin et le mariage peut avoir lieu. Après ces extraits des femmes savantes, retrouvons notre maître Jean-Baptiste. Après l'avare, donc, vous avez écrit une autre comédie-ballet au sommet de votre gloire.
Oui, sur une partition de Lully, j'écris ma deuxième comédie-ballet, Monsieur de Boursognac. C'était en septembre 1669. Alors, joué à Chambord et un mois plus tard à Paris. Ah, quel plaisir pour moi d'écrire cette pièce. Des couplets de certaines scènes sont en italien, des passages du second acte en languedocien. Oui, languedocien, c'est un dialecte d'occitan et un picard, si vous préférez, en languedoil. Ayant sillonné avec ma troupe Languedoc entre 1645 et 1657, j'ai connu l'occitan et je l'ai pratiqué un petit peu. Je me suis régalé des expressions dialectales. Elles ont enrichi ma palette. Vous savez, c'est important pour un auteur dramatique de parler pour le présent à partir du présent. Tendre l'oreille, se faire éponge, être attentif à toutes les manières de dire les choses. Je rencontrais un pourvoyeur de bons mots à Pézenas, mon ami et maître barbier Gély. Justement, je me souviens des « on dit » dans ce village. Dans la nuit, quand on aperçoit une silhouette se détacher au faîte d'un toit, c'était Molière qui venait d'honorer une femme. Mais revenons à Monsieur de Boursognac. C'est l'une des quatre pièces produites pour la cour du roi. Je me rappelle la critique. Cette merveilleuse troupe n'eut jamais autant le vent en poupe. Vous voyez la pièce, vous tous citoyens de Lutèce, vous avouerez en bonne foi que c'est un vrai plaisir de roi. De telles critiques vous donnent du baume au cœur, non ?
On dit que le roi lui-même est monté sur votre scène.
Oui, à l'occasion du carnaval de février 1670, au cours des festivités, nommé divertissement royal, je présente les Amants magnifiques sur une musique de Lully et une chorégraphie de Beauchamp. Petite anecdote, c'est lors de la première que Louis XIV monte, pour la dernière fois d'ailleurs, sur scène. Je ne sais plus pour quelle raison, il se fit remplacer pour les trois représentations suivantes. Pour la première fois que j'évoquais l'astrologie, je ne vous parle pas de cette jubilation d'écrire sur les croyances et les pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes et les affaires humaines collectives ou individuelles.
Merci Jean-Baptiste.
Je vous en prie.
On se retrouve pour la suite de cet entretien dans notre prochaine émission. Et voici maintenant des extraits de la pièce de Don Juan, Don Juan ou le festin de Pierre, qui fut écrit par Molière en 1665, à la suite de l'introduction de Tartuffe. C'est une tragicomédie qui raconte la vie du libertin Don Juan. Contrairement aux règles classiques, la pièce refuse la règle des trois unités est écrite en prose et se finit mal, contrairement au code de la comédie, et mélange les registres. Elle relate les aventures du jeune noble Don Juan et de son valet Sganarelle, avec des conquêtes amoureuses et des séductions de jeunes filles nobles et servantes. Voici l'acte 2, scène 2 et 3. Voilà, la scène 2, Don Juan, Pierre, Sganarelle, Michel, Charlotte, Françoise.
Nous avons manqué notre coup, Sganarelle. Et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais, à dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin qui me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas m'offrir longtemps de pousser des soupirs.
Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours. Paix, coquin que vous êtes, vous ne savez ce que vous dites. Et monsieur sait ce qu'il fait. Allons.
Ah, d'où sort cette autre paysanne, Sganarelle ? As-tu rien vu de plus joli et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre ?
Assurément. Autre pièce nouvelle.
D'où me vient la belle ? Une rencontre si agréable. Quoi ? Dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes ?
Vous voyez, monsieur.
Êtes-vous de ce village ?
Oui, monsieur.
Et vous y demeurez ?
Oui, monsieur.
Vous vous appelez ?
Charlotte, pour vous le servir.
Ah, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants.
Monsieur, vous me rendez toute honteuse.
Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu ? Peut-on voir rien de plus agréable ? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête de grâce. Ah, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu de vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne.
Monsieur, si cela vous plaît à dire, et je ne sais pas si c'est pour vous rayer de moi.
Moi, me rayer de vous ? Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela, et c'est du fond du cœur que je vous parle.
Je vous suis bien obligé, si ça c'est.
Point du tout. Vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis, et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable.
Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre.
Sganarelle, regarde un peu ses mains.
Oui, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi.
Oh, que dites-vous là ? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie.
Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du sang.
Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute ?
Non, monsieur. Mais je dois bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette.
Quoi ? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan ? Non, non. C'est profaner tant de beauté, et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune, et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur, et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt. Sans doute. Mais quoi ? C'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois.
Aussi vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous me dites me fait aise, et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs, et que vous autres courtisans êtes des enjôleux qui ne songez qu'à abuser les filles.
Je ne suis pas de ces gens-là.
Il n'a garde.
Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation, et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée.
Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer. Non, non, j'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte.
Merci, Philippe. Merci, Françoise. Merci, Muriel. Merci, Michel. Merci, Pierre. On se retrouve dans notre prochaine et dernière émission de la série Molière, saison 2. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. » Elle est de Molière dans Don Juan. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, fncta-midipi. Vous connaissez mon téléphone si vous souhaitez me contacter. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé, sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.